Bonjour à chacune, à chacun. Heureux d'être là parmi vous, de pouvoir apporter ce message ce matin. Et je commence en vous posant une question. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter des choses d'occasion via des sites de vente d'articles d'occasion sur Internet ou bien des petites annonces ou je ne sais pas quoi? C'est génial, c'est l'occasion de faire des super offres. Enfin, parfois, hein. Parfois, faire des super offres. En tout cas, il arrive de temps en temps qu'on tombe sur la perle rare qui nous permette d'économiser un max de thunes et d'avoir quelque chose qui en vaut la peine, finalement. Mais ces super offres, elles sont assez rares, en fait. Elles sont assez rares et peuvent arriver pour plusieurs raisons. Par exemple, le vendeur, il est prêt à faire une offre généreuse. Ça peut arriver. Parfois, le vendeur, il cherche en fait surtout à se débarrasser de l'article à moindre effort et puis il s'en fiche du prix finalement. Ou alors, c'est aussi possible que le vendeur, il n'a aucune idée de la valeur de ce qu'il est en train de vendre. Et puis, il vous le propose pour un prix dérisoire et vous, vous le savez. Est-ce qu'on dit quelque chose? Est-ce qu'on ne dit pas quelque chose? Est-ce qu'on profite? Ou alors, t'as été très très rapide et puis finalement, t'as vu la super offre avant tout le monde et puis t'es tombé sur la super offre. Enfin bref, il y a plein de bonnes choses, de bonnes affaires à faire sur ce marché de l'occasion, mais il m'est déjà aussi arrivé de me faire arnaquer. Il m'est déjà arrivé d'avoir acheté quelque chose et en fait, l'article n'était pas en bon état ou bien quelque chose qui ne jouait pas et je me suis fait arnaquer. Plein de regrets et ça me fait me dire la prochaine fois, je ne vais pas me laisser avoir. La prochaine fois, je vais être particulièrement alerte. La prochaine fois que je vois une très bonne affaire, je vais me douter de quelque chose. Aujourd'hui, je choisis de rester en lien avec le calendrier chrétien, 7 jours après la fête de Pâques, la résurrection. On se rappelle de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. On se rappelle de la vie en abondance que Jésus a manifestée par sa résurrection. C'est l'espoir pour ceux qui se confient en lui, qui ont aussi, eux, la victoire sur la mort. La mort n'aura pas le dernier mot. Quelle magnifique et bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais on sent que pour ses disciples, c'est pas mal de confusion, en fait, toute cette histoire de résurrection. C'est pas mal de confusion. Les femmes qui sont les premières témoins, eh bien, elles sont effrayées. Elles disent rien. Ça, c'est ce que Marc nous dit. Puis lorsque Marie de Magdala et les autres, elles annoncent cette nouvelle aux disciples, ben eux, ils ne la croient pas, ils ne les croient pas. Il y a d'autres disciples qui voient Jésus ressuscité, et là, à nouveau, on ne les croit pas. C'est uniquement lorsqu'il apparaît aux onze disciples, sans Judas évidemment, qu'ils croient enfin que Jésus est ressuscité. Mais même après ces rencontres avec Jésus, où ils l'ont vu de leurs propres yeux, on sent qu'ils sont toujours un petit peu dans une certaine confusion. Ils ne savent pas trop quoi faire, en fait, avec ce maître qui est là, mais qui n'est pas toujours là. Ils ne savent pas trop où se mettre, comment se placer, s'il faut se cacher ou pas. Il y en a certains qui retournent à leur occupation de pêcheur. Dans toute cette confusion, en fait, on a donné une assez mauvaise réputation à un disciple en particulier, le disciple qui doute. Je pense à Thomas. Évidemment, Thomas, il a ses doutes, il a des doutes, et c'est bien vrai, il aura besoin de ses preuves hein, pour voir et croire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais c'est peut-être un petit peu sévère de le restreindre à ça. Et c'est surtout oublier, justement, les autres disciples qui, eux aussi, tant qu'ils n'auront pas vu Jésus, finalement, auront beaucoup de peine à croire à cette histoire de résurrection. Alors si Thomas, il est connu pour être celui qui a douté, c'est parce qu'il y a un récit bien particulier hein, qui nous montre qu'il a lui aussi en particulier besoin de preuves. Cette histoire, on la trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, les versets 24 à 31. Et juste avant ça, juste avant de lire ce passage, on voit que les disciples, là ils sont 10, puisqu'ils sont sans Thomas, sans Judas, ils ont eu un épisode similaire à celui qu'on va lire à l'instant. Ils reçoivent la visite de Jésus, alors qu'ils sont dans une chambre, une maison qui est fermée à clé, parce qu'ils sont... En plus d'être dans la confusion, ils sont dans la crainte des autorités juives, puisqu'ils se retrouvent dans des endroits clos, ils prennent bien soin de verrouiller les portes, ils se cachent un petit peu. Et Jésus leur apparaît, Jésus leur rend visite, malgré les portes fermées. Et voilà ce qu'on lit dans Jean 20, 24 à 31. L'un des 12... Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place son doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Notre cher Thomas, il est donc dans une situation qui est plutôt inconfortable. Il doute du témoignage de ses collègues disciples, et puis il va avoir le cœur net que ce qu'ils disent, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une tromperie. Thomas, il a besoin de preuves tangibles. Mais comme dit, restreindre Thomas aux doutes qu'il a dans ce chapitre 20 de Jean, ce serait trop infidèle au portrait que les évangiles nous montrent de lui. Parce que Thomas, c'est aussi un disciple de paroles de foi. En tout cas, des paroles assez audacieuses, un peu à l'image de Pierre. Est-ce qu'il saisit l'ampleur de ce qu'il dit parfois ? À voir. Dans Jean 11, quand Jésus est en train de parler de ressusciter Lazare, Thomas dit « Allons-y, allons-y nous aussi pour mourir avec lui, pour mourir avec Jésus. » Ça, c'est une parole de foi, c'est une parole audacieuse. C'est aussi lui qui, quand Jésus dit aux disciples qu'il leur prépare une place dans la demeure de son Père, il dit « Vous en connaissez le chemin. » Et Thomas, il est « Non, nous, on ne connaît pas le chemin. C'est quoi ce chemin ?» Et Jésus qui répond « Je suis moi, le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Thomas, c'est un disciple fidèle, un disciple audacieux, un disciple aussi en recherche, un disciple qui a besoin de comprendre des choses, en fait, bien plus qu'un simple sceptique. Dans ce texte, finalement, ce que je trouve qui ressort, c'est que Thomas, il a vécu une déception. Parce que son maître, il semble avoir perdu le combat face aux autorités juives et romaines qu'il a si souvent défiées. Ils ont eu raison de lui. Et puis Thomas, il avait placé sa confiance en lui. Quelle déception. Ce n'est pas la fin à laquelle il s'attendait. Son maître, il n'aurait pas dû subir ce sort qui est si cruel. Est-ce qu'au final, en fait, ces affirmations qu'il a faites, elles étaient fondées? Est-ce que vraiment il était le fils de Dieu? Est-ce que vraiment il avait cette autorité qu'il mettait en avant? Est-ce qu'il méritait la gloire dont il parlait si souvent? Est-ce qu'il était vraiment le Messie, en fait? Et pourquoi mourir par le pire des châtiments? En fait, c'est une honte. C'est la mort la plus déshonorante qui puisse exister à l'époque. Moi, je me reconnais tellement bien dans ces sentiments mélangés, dans ce doute. Pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour permet telle ou telle chose d'arriver? Ça, c'est des questions qu'on a tellement souvent. Pourquoi est-ce que Dieu permet telle et telle souffrance? Il y a quelques années, je me souviens qu'à l'EMT, on avait parlé d'une conversion un petit peu particulière dans l'un ou l'autre message, dans l'une ou l'autre prédication. C'était la conversion de l'artiste de rap Kanye West. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Kanye West, qui était un homme brisé de tant de manières, qui a trouvé de l'espoir en Jésus-Christ. Ça avait fait un gros buzz parce que ce n'était pas du tout le type de gars qui avait des paroles chrétiennes à la base. Et puis, il sort un album qui s'appelle « Jesus is King ». « Jésus est roi ». Boum, comme ça. Malheureusement, sur le long terme, les fruits de cette conversion, ils n'ont pas été des plus visibles, je dirais. Et puis, il y a même quelques temps, une ou deux semaines auparavant, il vient de dire « Moi, j'ai des gros problèmes avec Jésus ». J'ai prié, il ne s'est pas manifesté. Il n'a pas répondu à mon besoin. Peut-être qu'il a même dit ça dans le sens, en fait, Jésus, il s'est défilé. Il semble que Kanye West a tiré une croix sur Jésus, malheureusement. Et je trouve que c'est assez significatif d'un problème du discipulat aujourd'hui. Je m'y reconnais aussi, en fait, finalement, dans cette réaction. Combien d'entre nous avons déjà été dans cette situation? Des réponses négatives, des silences de Dieu, des prières non exaucées, des déceptions, alors qu'on pensait être dans le chemin que Dieu avait prévu pour nous, et puis on se retrouve face à un mur. Tout ce genre de choses, ça pèse. Tout ce genre de choses, ça s'accumule. Ça fait du mal à notre foi. Jésus n'a pas répondu. Peut-être qu'en fait, finalement, cette histoire de foi, c'est pas pour moi. Je suis sûr que ces questionnements, ils te concernent aussi, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, en tant que disciple, on est appelé à aller au-delà de cette étape, aller au-delà de ces questionnements, aller au-delà de ce point dans notre vie de foi. Pas juste aller au-delà avec une foi aveugle, avec une foi utopique. Et je pense que là, on a quelque chose à apprendre de Thomas. Une foi à l'image de celle de Thomas. Pas pour exalter le doute, pas pour exalter le besoin de preuves tangibles nécessairement. Mais Thomas, il prenait cette question de foi hyper au sérieux. Hyper au sérieux. Il vivait une déception tellement forte à ce niveau. C'est tout son monde qui s'écroulait à ce moment-là. C'était important pour lui de ne pas se faire duper à nouveau. De ne pas vivre une nouvelle déception comme celle qu'il a vécue là. En fait, Thomas, il avait besoin de savoir qu'il est dans le juste. Et il n'était pas si certain d'y être à ce moment-là. Ça me parle beaucoup. Le désir de placer ma confiance en Dieu, et puis en même temps, cette peur d'être à côté, en fait, parce que je traverse le doute. Si vous suivez le plan de lecture biblique et que vous êtes à jour cette semaine, vous avez certainement lu la parabole du semeur dans l'évangile de Marc. Dans cette parabole, il y a plusieurs façons de recevoir la parole qui sont décrites. Et puis l'une d'elles, c'est l'image des ronces. Les soucis du monde, l'attrait des richesses, des autres passions, ben finalement ça étouffe cette plante qui a été, cette graine qui a été semée, qui pousse. Tout ce genre de choses, ça étouffe. Et bien l'encouragement pour ce matin, c'est d'aller au-delà. D'avoir cette foi qui va au-delà du doute, au-delà des déceptions, au-delà des murs qui sont parfois devant nous, avoir cette foi d'aller au-delà. On pourrait se laisser bloquer par tout ça. Mais c'est important d'avoir une foi qui reconnaît l'importance d'être fondée. Et surtout, une foi qui crie du cœur. J'ai besoin de rencontrer Jésus. J'ai besoin de le toucher. Comme Thomas. J'ai besoin de me retrouver face à lui. J'ai besoin de sa présence. Et c'est ça qui détermine tout. Parce que Jésus connaît les besoins de ceux qu'il aime. À ce moment-là, Thomas avait besoin de preuves. En tout cas, il avait l'impression d'avoir besoin de preuves. Et quelque chose qui m'encourage énormément dans ce passage, c'est de voir que Jésus, tout à nouveau, on remarque qu'il est omniscient. Il sait tout. Il sait tout. Il sait exactement ce que Thomas avait dit aux autres disciples 7 jours avant, en disant « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et 8 jours plus tard, Jésus rend de nouveau visite à ses disciples, et cette fois-ci Thomas est là. Et Jésus, il arrive et il sait exactement ce que Thomas avait dit 8 jours auparavant. Alors, il l'invite à faire ce qu'il disait avoir besoin de faire. Jésus était bien au courant pour Thomas, et il est bien au courant pour toi, pour moi. Jésus connaît les doutes qui sont formulés dans nos cœurs. Il connaît nos besoins qui nous remplissent. Et il s'en soucie, il s'en occupe, c'est certain. Peut-être tu peux avoir l'impression que Dieu te voit pas, ou bien que Dieu ne te regarde pas. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler que Dieu est là, qu'il nous connaît parfaitement, qu'il nous voit, qu'il nous aime. Alors Jésus va inviter Thomas. Et il sait exactement ce qu'il avait dit, ce qui se passe en lui. Et puis il l'invite de cette manière. Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et ici, je prends une option d'interprétation de ce texte, de ce qui est en train de se passer. En tout cas, nulle part dans ce récit, c'est écrit que Thomas, il est effectivement touché les mains, le côté de Jésus. Tout ce que le texte nous dit, c'est la réponse qui est une confession de foi de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors moi, j'aime bien croire que Thomas, ben finalement, il ne l'a même pas touché, Jésus. Qu'il n'a pas eu besoin de faire ça parce que il a comme compris, réalisé que c'était pas ça son besoin profond. Thomas croyait qu'en plus de le voir, il avait besoin de le toucher, d'avoir la preuve irréfutable que c'était bien lui. La preuve irréfutable, preuve ultime que Jésus était bel et bien ressuscité. Évidemment, Thomas, il a eu une magnifique preuve en se retrouvant face à face à Jésus. Mais je crois que ce qui se passe réellement, et puis avant tout, eh bien c'est la réponse à son besoin le plus profond. Et cette réponse, c'est une rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus, un face-à-face avec sa bienveillance, un face-à-face avec son amour, avec sa présence. Jésus répond au besoin le plus profond qui finalement est celui de pouvoir connecter avec le Seigneur. Et c'est ça, à mon sens, qui provoque ce passage du refus de croire à celui de la confession de foi. Et quelle confession magnifique ! C'est la première fois que quelqu'un appelle Jésus Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. T'en es où avec tes doutes ? On doit tous se confronter à notre propre incrédulité d'une manière ou d'une autre, un moment ou un autre, et Dieu nous invite toujours. Toujours à une rencontre avec lui. Jésus, il ouvre grand la porte. Il nous invite à venir le voir. Il nous invite à venir le toucher. Est-ce que ce matin, tu as besoin de vivre un rendez-vous avec Jésus, une rencontre avec le Seigneur? Une rencontre qui va alimenter ta foi, qui va la faire grandir. Jésus nous invite. Ne passons pas à côté de cette invitation. Dans tout ce passage, il y a un mot qui revient énormément. Et puis, en l'étudiant, ce passage, on comprend assez vite que ça devient comme une clé pour comprendre toute cette histoire, un élément central, puis finalement même, en fait, un but dans l'évangile de Jean. Croire. Croire, c'est la clé de ce passage. Je ne croirai pas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. C'est écrit pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous possédiez la vie. Croire. Une clé d'interprétation pour ce passage. Et puis dans tout ce passage, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une béatitude. Ah ah, une béatitude, vous croyez que j'en avais fini avec celle-ci ? Eh bien non. Eh bien non, on continue avec les béatitudes. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par là ? On pourrait presque avoir l'impression, en lisant ça, qu'il lui dit « Bon, toi, tu as eu besoin de ta preuve pour croire, mais alors ceux qui croient sans avoir vu, eux, alors c'est eux qui ont la vraie foi. » Comme s'il y avait une foi, en fait, de meilleure qualité que celle de Thomas. Je pense que si on prenait cette option d'interprétation-là, on comprendrait bien mal le texte. Et pour mieux comprendre, en fait, il suffit de continuer à lire. Il suffit de continuer à lire, parce que les versets suivants, ils rendent ça bien, bien évident. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est une façon de dire, les disciples qui viendront après toi, ils n'auront pas le privilège de m'avoir côtoyé directement. Mais ils sont heureux, parce que eux aussi, ils auront cette joie de croire en moi, grâce à ton témoignage à toi, le témoignage de ta rencontre avec moi, grâce au témoignage de mes disciples. En fait, c'est exactement ce que Pierre dit dans sa première lettre. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Un cadeau magnifique, un cadeau inestimable de la vie éternelle, grâce à la foi en Jésus-Christ. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Puis Jean, il finit cette histoire, cette section, avec une petite note éditoriale comme ça. Il a mis les éléments de sa version de l'Évangile, les éléments qui étaient nécessaires, qui étaient utiles pour son récit de l'Évangile. Et puis, il a encore un petit truc à dire. Il dit ça. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Tout ça, ça a été écrit pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous possédiez la vie dans le nom de Jésus-Christ. Voilà le but de cet évangile. Voilà le point culminant de tout ce message lié au fait de croire. Si on regarde à la structure plus large du livre, on voit que ce passage, il devient comme ce point culminant, justement, de cet aspect du message. Il en arrive à sa finalité. Jean, il démontre que celui qu'il appelle au tout début la parole, celui qui est la parole, était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Eh bien, c'est bien ce Jésus-là. Et puis, je vais vous le montrer tout au long de cet évangile. Puis, on arrive jusqu'à la confession de foi pure et dure de Thomas à la fin de cet évangile. Thomas, qui justement appelle celui qui était la parole, celui qui est Dieu, il l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Puis il dit pas juste ça pour que ça fasse joli, il dit ça pour que toi et moi, nous puissions dire à la suite de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Reconnaître que Jésus-Christ est réellement ressuscité, qu'il est réellement notre Seigneur, qu'il est réellement notre Dieu. La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Romains 10, 17. La voilà, la parole de Christ. Cette parole, elle nous a été transmise de génération en génération. Et c'est un privilège énorme de pouvoir la méditer, de pouvoir se laisser conduire plus proche du cœur de Dieu, plus proche de Jésus, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Écoutez, la parole de Dieu, c'est l'appel qu'on fait à l'EMT pour cette année. Écoute, médite, laisse-toi instruire par cette parole. Il y a assurément des sources de vie, des sources abondance qui sont en réserve pour nous. J'invite l'équipe de louanges à venir vous mettre en place. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et c'est une affirmation qui demande de la foi. Et heureusement, notre Seigneur, il nous connaît. Il sait ce dont on a besoin, et puis il nous rencontre pour faire fructifier notre foi, pour augmenter notre confiance en lui. Ce matin, j'ai essayé de vous encourager à avoir cette foi qui va au-delà du doute, au-delà de la réponse négative, au-delà de la déception, au-delà du mur qui est devant nous. Parce que Dieu est avec nous et Dieu nous conduit. T'en es où avec tes doutes? On a besoin de vivre cette rencontre avec Jésus, cette rencontre avec notre Seigneur. Et il nous invite, ne passons pas à côté de cette invitation. Ce matin, j'aimerais nous inviter à confesser tous ensemble, à la suite de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Dire tous ensemble qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Alors si vous en avez la liberté, eh bien, je vais vous inviter à signifier ça tout simplement en vous levant. Si tu veux dire à la suite de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi Jésus-Christ. Ben, je t'invite à te lever maintenant. J'aimerais encore prononcer une prière et puis on va chanter ce chant qui dit aussi « Je m'attendrai à toi ». Notre Seigneur, notre Dieu, c'est toi que nous voulons rencontrer. C'est ta présence qui change tout. C'est ta présence qui nous permet d'avoir la foi, Seigneur. Je te demande d'augmenter notre foi. Je te demande de nous donner la force de surmonter le doute, les obstacles, les choses qui nous font douter de ta bonté, qui nous font douter de ta seigneurie. Et Seigneur, que dans la rencontre, le cœur à cœur avec toi, eh bien on puisse se laisser visiter par toi, Seigneur, et être renouvelé dans notre foi. Une foi qui dira que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, nous voulons rester à ton écoute, rester à l'écoute de ta parole, nous laisser visiter, nous laisser interpeller. Et Seigneur, que là aussi, eh bien notre foi, elle augmente. Notre connaissance de qui tu es, de ton amour, de ton cœur de père, de ton cœur pour les perdus, de ton cœur pour nous, pour nos situations. Et Seigneur, on puisse réaliser ça toujours davantage. Nous avons soif de toi, Seigneur, nous espérons en toi. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Roi de gloire. Amen.